Culture Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
Les moins jeunes d'entre nous se souviennent de l'émission passionnante d'Alain Decaux sur le Saint-Suaire de Turin. L'historien parlait face caméra avec une conviction qui emportait l'adhésion. Le Saint-Suaire de Turin est une énigme, mais Decaux concluait qu'il y avait 99,99% de chances qu'il ait bien enveloppé le corps de Jésus-Christ. Et puis patatras! Le Vatican autorise qu'il soit établi la datation du tissu vénéré par la technique du carbone 14. Je dis bien patatras, parce que l'expérience révèle que le linge daterait du Moyen-Âge entre 1260 et 1390. Nous sommes en 1989, toutefois, Jean-Paul II assurait que ce linge représentait l'expression de la passion et de la résurrection du Christ. Le fondement de la foi, finalement. On aurait pu classer l'affaire, comme on a vu les images et cartes postales de ce beau visage christique disparaître peu à peu des rayons de souvenirs religieux. Et puis voilà que Jean-Christian Petit-Fils publie son étude-enquête. Alors c'est un auteur que je suis fidèlement pour sa rigueur et son style fluide qui rend intelligent. Avec lui, on apprend tout sans se prendre la tête, et sa rigueur est implacable, sans doute forcée par la nécessité de rappeler aux universitaires qu'ils devraient sortir de leur camp à soi. Jean-Christian Petit-Fils est connu et reconnu pour ses biographies, une trentaine de personnages de l'Ancien Régime. Et puis il y a eu la biographie de Jésus, puis le dictionnaire amoureux de Jésus chez Plon, et juste après un Marie-Antoinette et un Henri IV, vous proposez cette étude enquête définitive sur le Saint-Suaire. Alors là, vous reprenez tout depuis le début, le livre est passionnant, Jean-François Rode l'a lu avec gourmandise et a pas mal de questions à vous poser, mais d'abord, pourquoi vous êtes-vous attelé à ce sujet? Vous avez du neuf, Jean-Christian Petit-Fils?
Alors,
parce que moi j'ai oublié l'affaire, hein, depuis 89.
Ça fait 44 ans que je m'occupe de ce mystère. Il faut bien préciser une chose, c'est que c'est pas une question de foi. C'est très important. Non. Ça touche évidemment à la religion, mais c'est une énigme d'histoire, d'archéologie, une énigme scientifique aussi, bien sûr. Mais beaucoup de scientifiques et de très haut niveau se sont occupés du mystère du linceul. Et il faut le traiter comme cela, et non pas en fonction d'options religieuses ou non.
Alors, votre ouvrage est très clair, on a trois parties. Que dit l'histoire? On va y venir. Que dit la science? Et puis, témoin de la passion et de la résurrection. Et là, vous reprenez les mots de Jean-Paul II, et là, vous exprimez votre foi. Mais dans les deux premières parties...
J'exprime mes convictions. Voilà. Voilà. Plus que... Enfin, ma foi, bien sûr, parce que je suis croyant, mais ce n'est pas une affaire de foi.
Alors, on reprend tout depuis le début, si vous le voulez bien. Bon, d'abord, très rapidement, qu'est-ce que le suaire? Parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie qui est roulée ou rangée, disent les évangélistes. Ils descendent dans le caveau, ils virent et ils crurent, Pierre et Jean. Et puis, alors, donc, il y a deux éléments.
Oui, alors on est donc le 5 avril de l'an 33, Jésus a été crucifié le 3 avril de l'an 33, on le sait par les calculs astronomiques de la date de Pâques de cette époque. Pierre et Jean vont au tombeau avertis par les saintes femmes, et en particulier Marie-Madeleine. Ils ont enlevé le corps du Seigneur.
Le corps a disparu.
Et Jean se précipite, court, probablement est-il plus jeune que Pierre. Il arrive au tombeau, il laisse passer Pierre. Alors bon, bien sûr, on va expliquer que ultérieurement, c'est la prééminence.
Le côté hiérarchique.
J'imagine que c'était pas ça. Bon, j'ai ma propre explication, mais enfin, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais Pierre est étonné, voit les linges affaissés, et Jean va dire, le disciple bien-aimé, c'est-à-dire lui-même, il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le linge rester en place sur la banquette
à plat.
Pierre, à plat. Cette fameuse banquette qu'on a revue tout récemment, puisque dans le Saint-Sépulcre, on a fait des travaux et on a enlevé les plaques de marbre qui recouvraient cette banquette. Donc cette banquette-là, eh ben, il y avait le linceul à plat. Alors je dis, une question de terminologie aussi, ce qu'on appelle le Saint-Suaire aujourd'hui, de Turin, c'est en réalité un linceul. Et il y a également un autre linge qu'on appelle le suaire, qui est le suaire d'Oviedo. Les deux linges, d'ailleurs, se recoupent au niveau des taches de sang. Donc, par conséquent, ils ont vraiment recouvert le même homme. Donc, il faut bien voir que sa sphère, c'est le linceul, voilà, de Turin. Alors, il voit donc ce linge à plat comme si le corps avait disparu de l'intérieur. Mmh. Et c'est pour ça que éclair de chez Jean, perplexité chez Pierre, nous dit Saint-Luc, il vit et il crut. Il a cru quoi ? En la résurrection de Jésus. Jésus a disparu et son corps, il est ressuscité, mais il ne l'a pas encore vu ressusciter, pas encore vu vivre. C'est très important.
Oui. Alors, donc, il
crut. Et le suaire.
Qui emporte le suaire ?
Alors,
qui a l'idée d'emporter le linge ?
Donc, il y a d'un côté ce linceul, ouais. Et puis de l'autre, nous dit Jean, le suaire qui avait été enroulé sur
le visage,
enroulé et laissé à part à l'endroit où il était resté. Bon. Et ce suaire, il y a toute probabilité pour que ce soit le suaire d'Oviedo, conservé dans la cathédrale d'Oviedo en Espagne. Alors, qui emporte le linge ? Eh bien, on ne le sait pas. Nous n'avons pas de certitude. Alors, on dit que c'est Marie, on dit que c'est le serviteur du grand prêtre, d'après un apocryphe. On ne sait pas.
Et là, on arrive dans une histoire absolument folle que vous nous racontez dans cette première partie. Que nous dit l'histoire ? C'est-à-dire que ce linge va circuler à Constantinople, il arrive à Paris, il repart. Enfin, oui. C'est invraisemblable. Donc,
pour les premières années, même les premiers siècles, nous n'avons pas de certitude. Mmh. Et sur le plan historique, par conséquent, il n'y a pas une certitude absolue que ce linge soit bien celui de Jésus. En revanche, sur le plan scientifique, on en reparlera tout à l'heure, il y a une certitude. Il apparaît probablement en l'an 387-388 dans une ville qui s'appelle Édesse, qu'on appelle aujourd'hui Urfa en Turquie, et on commence à le vénérer donc au début du 5e siècle. Daniel de Galache vient vénérer au milieu de d'autres pèlerins. On regarde cette image qui n'est pas faite de main d'homme, qui est donc étonnante. Et ce qui est assez singulier, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du 5e siècle, très précisément, fin du 4e, début du 5e, l'iconographie de Jésus, qui représentait oui. Jésus, qui nous représente ça, un verbe en Apollon, selon un dieu romain, jeune, beau, ou en bon pasteur, portant la brebis, mais sans barbe. Eh bien, toute cette iconographie va se caler sur les représentations de l'homme du linceul, c'est-à-dire la barbe bifide, qui provient d'un arrachement des sévices subis par Jésus, probablement chez les grands prêtres ou chez Pilate. Différentes caractéristiques, un carré entre les sourcils, un œil tuméfié, etc.
Oui, vous le montrez très bien dans votre livre, et puis il y a même les photos.
Il y a des correspondances parfaites entre certaines monnaies, la monnaie de Justinien II, par exemple, au 7e siècle, c'est parfait. Il y a une quinzaine de signes qu'on appelle les signes de Vignon, Vignon, donc au début du 20e siècle, qui a dit voilà, il y a des caractéristiques de cette iconographie qui se retrouvent parfaitement sur le linceul. Alors, la question c'est de savoir qui a produit l'un ou l'autre, est-ce que c'est le linceul qui a copié
c'est la poule et l'œuf.
Voilà,
Jean-François
Rode. Exactement.
Ben, en fait, c'est très impressionnant votre première partie, l'enquête historique, parce qu'il y a énormément en fait de linges qui apparaissent à différents moments, et à chaque fois vous faites le. Vous essayez de voir si ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut dire de ça. C'est une enquête vraiment très fouillée, extraordinaire.
Tout à fait, c'est pour ça que l'authenticité du linceul, à laquelle je crois profondément, n'est pas une question de foi, puisqu'il y a eu des pèlerinages autour du linceul de Compiègne, Saint-Suaire de Compiègne, du Saint-Suaire de Cadouin. Alors, c'est tout de même assez cocasse, cette histoire du Suaire de Cadouin, puisque c'est une abbaye près dans le Périgord. Et il y a eu des foules entières, il y a eu des indulgences accordées par la papauté à ce suaire de Cadouin. Et en 1934, on a fait un examen très sérieux et on s'est aperçu que c'était un étendard fatimide du 11e siècle avec des inscriptions en écriture koufique à la gloire de l'émir Al-Moustali. Donc, on l'a retiré évidemment aussitôt de la vénération des chrétiens. Mais il y a encore aujourd'hui dans la région des gens qui disent « Mais si on pouvait remettre la vénération de ce Voilà.
Alors, en 1247, un lot de 22 reliques arrive en France. Alors, 22 reliques. Parmi elles figuraient les langes de l'enfant Jésus, du lait de la Vierge, le linge du lavement des pieds, le roseau remis à Jésus flagellé en guise de sceptre dérisoire, l'éponge que lui avait tendue sur la croix un soldat romain, un morceau de la lance qui avait percé son flanc. Enfin, ces linges funèbres, je vous cite Jean-Christian Petit-Fils. Et puis, il y a le Sanctam Toelam.
Oui.
Qui fait partie de ces 22
Alors voilà, donc il y a eu en fait plusieurs transferts de Byzance, de Constantinople. Oui. Baudouin II de Courtenay, l'empereur latin de Constantinople, à court d'argent, va d'abord céder la Sainte Couronne à Saint-Louis. Et puis, ça c'est en 1239, en 1241, deuxième voyage avec un certain nombre de reliques, dont la Sainte Toile, Sanctam Toelam, qui arrive dans un coffret. À l'intérieur de ce coffret, il y a deux objets. Un objet plus petit qui correspond à ce qu'on appelle le mandilion, qui est un dessin très bien fait sans doute, mais qui a disparu aujourd'hui, représentant le visage du Christ, et qu'on vénérait beaucoup à Édesse. On ne vénérait pas le linge, on ne le montrait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du sang, parce que c'était un linge probablement considéré comme impur.
Alors, groupe sanguin AB ?
Alors, le groupe sanguin, ça, c'est les expériences ultérieures.
On va revenir sur la science, oui.
Sur la science, oui. Correspondant d'ailleurs au sueur d'Oviedo et à la tunique d'Argenteuil.
Il faut en parler
4%
aussi.
4% de la population mondiale, c'est quand même le croisement de ce groupe sanguin avec les trois linges est tout à fait étonnant. Donc, il arrive à Paris, venant de Constantinople. Et là, il est conservé pendant un siècle à peu près dans le trésor de la Sainte-Chapelle. Et puis, en 1347...
Alors, vous déplorez la Révolution française qui va foutre en l'air complètement...
Alors, la Révolution française, voilà. Alors,
c'est très triste, parce que quand vous écrivez en disant on ne voit plus que la place où était le reliquaire qui a été fondu. Et alors, votre tristesse dans le livre.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque tragédie de l'histoire, le linceul échappe. Oui. Échappe à deux incendies.
L'incendie de Turin.
L'incendie
de Chambéry.
De Chambéry, 1532. Oui. Le reliquaire fond. Il y a des gouttes de plomb qui tombent,
ouais.
Qui abîment en partie, mais seulement sur le côté. Le linge, on le voit encore avec des traces.
Il y a des traces aujourd'hui. Bon. Oui.
Et puis, en 1997, Mario Trematore, un pompier
extraordinaire,
poussé, dira-t-il, par l'Esprit Saint. A pris une masse et a tapé et une voix lui disait tape là à côté pour casser le et sauver parce que la cathédrale de Turin était en feu et c'est comme ça que le linge a été pris et ce pompier aurait dit ça aurait été un tableau de Giotto ou Michel-Ange
j'aurais laissé
mais là j'ai voulu le sauver.
C'est un épisode incroyable.
Voilà, donc pour revenir à la Sainte-Chapelle, eh bien ce linge va échapper à la destruction de tout le trésor en dehors de la couronne d'épines qui en effet elle-même a échappé, mais tout le reste, ce grand trésor constitué par Saint-Louis disparaît sous la Révolution. Et le linceul, lui, a été donné en 1347, la Sainte Toile, à Geoffroy de Charny, porte-étendard de l'armée royale, en récompense de ses bons travaux. Et à ce moment-là, Philippe VI de Valois, lui, considère que le linge authentique, c'est celui de Cadouin. Donc, il considère que bon, c'est un linge, il va lui donner un cheveu de la Vierge. Et puis, c'est grâce avec ces éléments-là que Geoffroy de Charny va construire une petite église en bois parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. On est dans une période extrêmement difficile en milieu du Moyen-Âge. Et les pèlerins vont affluer, voir ce linge extraordinaire, non fait de main d'homme.
Alors, je fais, parce qu'il faut laisser les lecteurs lire votre passionnante enquête Saint-Suaire de Turin publiée aux éditions Talendier, Jean-Christian Petit-Fils. On arrive naturellement à la photographie de Segondo Pia en 1898 qui révèle que le suaire en fait est un négatif.
Oui, voilà. Alors, Segondo Pia a obtenu l'autorisation de photographier le linceul à l'occasion d'une ostension. Et là, dans la demi-lumière de son laboratoire, avec la petite lumière rouge, il sort sa plaque. Et il raconte qu'il a été stupéfait, qu'il a failli lâcher la plaque, tellement il voit, pour la première fois depuis 2000 ans, le visage d'un homme crucifié, flagellé, avec toutes les tares et les marques de la passion, puisqu'en réalité, ce que nous voyons sur le linceul, c'est un négatif. C'est-à-dire, les taches blanches sont noires, sont sombres, et les taches sombres sont blanches. Donc, ce qui est inverse, c'est une inversion. Et du coup, négatif sur négatif, ça donne un positif. Et nous avons, comme cela, grâce à cette photographie argentique d'autrefois, puisque aujourd'hui, avec le numérique, on pourrait plus faire ça, eh bien, nous avons retrouvé le vrai visage de l'homme du linceul, qui pour moi, indiscutablement, est Jésus.
Alors, cette partie historique tout à fait passionnante, et puis alors après, on arrive dans la science. Alors, il y a du nouveau, vous nous racontez le fiasco, c'est votre mot, de la datation du carbone 14, il y a une affaire d'échantillons surnuméraires, ajoutés au dernier moment, prélevés sans autorisation, et ajoutés quand le cardinal Balestrero, qui chapeautait l'expérience, avait le dos tourné. Vous parlez clairement de violation du protocole. Qu'est-ce qui s'est réellement passé?
Alors, beaucoup de choses. Donc, il y avait trois laboratoires très sérieux. Oui. Oxford en Angleterre, Zurich en Suisse, Tucson en Arizona aux États-Unis, qui ont fait un travail. Mais ils s'étaient donné, ils avaient conclu un protocole d'accord, comme quoi, par exemple, ils se communiqueraient aucun résultat ou pré-résultat. Bon, ce qu'ils ont vraiment manqué de faire, parce qu'ils avaient tous la peur de se tromper. Donc, ils se passaient des coups de fil. Et on a eu, avec beaucoup de réticence, des premiers résultats dans la revue Nature en 1989, 4 pages simplement de chiffres, mais même à partir de ces chiffres-là, les statisticiens ont commencé à se dire, mais attends, mais ça va pas, c'est pas possible, il y a une contradiction entre les résultats d'Oxford et ceux de Zurich et de Tucson. Bon, il y a 100 ans d'écart. Bon, alors on dira, bon, ça reste
tout ça reste le Moyen-Âge.
Oui, d'accord, mais c'est quand même scientifiquement...
Il y a un doute.
Il y a un doute. Aujourd'hui, en 2017, il y a un jeune chercheur, Tristan Casabianca, qui a obtenu du British Museum, qui était le coordinateur de l'opération, les chiffres bruts. Et là, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'aucun des trois échantillons ne semble appartenir au même linge. Alors, il n'y a pas eu, je le dis tout de suite, substitution de linge, il n'y a pas eu trafic, etc., comme certains l'ont supposé. Mais il y a...
Enfin, on a parlé de mafia à l'époque.
Oui. Mais là, bon, faut pas exagérer. Mais...
Jean-François Rode.
Non, mais c'est vraiment très important, ça, je crois. Le public, aujourd'hui, par rapport à cette question, à cette énigme, effectivement, Christophe le rappelait au début... Tout le monde se dit, boum, mais enfin, l'affaire est réglée parce qu'il y a eu cette étude du carbone 14, c'est un linge du Moyen-Âge. Donc, voilà. Alors, je pense qu'il faudra en quelques
mots. Il y a Raymond Rogers, expert en cinétique chimique, qui relance le débat.
Un savant qui nous dit c'est une zone ravaudée. On voit des traces de coton en 2005. Ouais. Et là, il a fait un travail remarquable. Il y avait aussi un autre savant qui s'appelle Garza Valdez qui avait dit sur les fils du linceul, on voit des traces de bactéries qui n'ont pas été très certainement nettoyées selon les protocoles de 1987-88. Il y a Gérard Lucotte qui dit qu'il y a des traces de carbonate de calcium en très grande quantité. Et on sait par exemple que le linceul a séjourné dans une jarre pliée en 52 plis, avec de l'eau probablement au fond, qui a fait qu'il y a une imprégnation de l'eau. Il y a eu l'incendie de 1532 où on a jeté massivement de l'eau sur le linceul. Donc tout cela fait que malgré les techniques de nettoyage de l'époque, eh bien, il est resté des... C'est pour ça que statistiquement aujourd'hui, il y a 1% de chance pour que les trois échantillons qui ont été prélevés l'un à côté de l'autre appartiennent au même linge. Donc, vous voyez, ça déqualifie complètement l'expérience du carbone 14.
Donc les chercheurs et la science n'ont pas arrêté. Nous on a clôturé le dossier, Jean-François.
Non, j'ai pas ça, mais je veux dire, c'est forcément sur quoi il faut insister, je pense, ouais. pour le public.
Alors le 11 avril 2022.
Donc c'est là,
pas
c'est
très
tout
loin.
De suite.
Oui. Un chercheur de l'Institut cristallographique de Bari, c'est le CNRS italien, fait une expérience avec le professeur Giovanni Fanti, qui s'intéresse au linceul, qui a fait aussi des expériences antérieures. Et il arrive à la conclusion, selon une technique de rayon X bien particulière, que le linceul date du 1er siècle. Ils le comparent, ils ont pris un certain nombre d'échantillons de comparaison, et l'un de ces échantillons correspond parfaitement à celui du linceul, c'est un échantillon d'un linge trouvé dans la citadelle de Masada. Laquelle citadelle de Masada a été le haut lieu de la résistance juive qui a été détruite en 73 de notre ère. Donc ce linge date du 1er siècle. Conclusion, ben c'est un linge du 1er siècle. Mais il y a quantité d'arguments dans tout qui vont toujours dans le même sens.
Alors on retrouve des traces de fleurs, de fruits, 27 des 28 fleurs poussées dans l'environnement immédiat de Jérusalem.
Des pollens, oui.
Et alors, on arrive dans cette troisième partie, témoin de la passion et de la résurrection, le Saint-Suaire se lit. On lit, on décrypte le Saint-Suaire, et vous le lisez au regard des évangiles, et vous terminez votre livre par le récit saisissant de la passion, de la crucifixion. Moi, j'ai été frappé par la descente de croix que vous décrivez, par l'ensevelissement. Pas moins de 35 kilos de myrrhe et d'aloès. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est ce que vous écrivez. C'est-à-dire qu'on n'enterre pas n'importe qui.
Non, alors voilà, c'est ça. Moi, je crois qu'il y a deux conclusions à tirer d'une seule. Premièrement, d'abord, la souffrance extraordinaire subie par Jésus. Tous les crucifiés, bien sûr, vous me direz.
Oui, mais il y a eu la flagellation avant.
Il y a eu la flagellation, mais il reste que
les autres, ils n'étaient pas flagellés. Hein.
Jésus a donné un sens à la souffrance et à sa propre mort. Mais on a tendance, nous, chrétiens, on voit un crucifix, on voit un homme sur le crucifix, on dit, bon, voilà, c'est le signe de la croix, il est mort pour nos péchés. Mais nous ne voyons pas l'atrocité de ce supplice. Et le linceul nous le montre. Le professeur Bardet l'a montré dans les années 30, après une étude médico-légale très fouillée. Et alors, la deuxième conclusion, c'est qu'il y a eu un petit groupe de disciples secrets de Jésus,
Joseph
d'Arimathie, Nicodème, qui étaient membres du Sanhédrin, qui ont obtenu que Pilate leur cède le corps pour qu'il soit enterré dans une vraie tombe, alors que les autres ont été enterrés à même la terre. Hein. C'est des condamnés, c'est ce qu'on faisait habituellement. Et ils ont voulu donner, en signe de respect, un enterrement du Messie, bien sûr. On n'en est pas encore à la théologie de Jésus, fils, deuxième personne.
Mais avec trois fois rien, il faut, avec une grande dignité, écrivez-vous.
Voilà. Et on a même trouvé un chercheur qui s'appelle Thierry Castex, qui est tout à fait remarquable et qui m'a d'ailleurs permis de mettre ses travaux sur la couverture. Il a fait des travaux sur en 3D. Ouais. Eh bien, Thierry Castex a découvert sur l'un des doigts de Jésus, à peine mal enfoncé, la trace d'un bijou, d'une bague.
Une
chevalière. Donc, tout cela, c'est pour montrer... Alors, est-ce que c'est Marie-Madeleine? Je ne sais pas. Mais tout ça pour montrer le respect infini qu'on avait pour le Messie, puisque pour eux, c'était le Messie.
On lui a glissé une chevalière sur le doigt, sur le doigt du cadavre. Voilà. On a glissé une chevalière, on l'a entouré de fleurs.
On l'a entouré de fleurs.
Et on est dans un enterrement d'une grande dignité, voire de dévotion.
On a posé une ou deux pièces de monnaie, qui sont des leptones qu'on arrivait à identifier, qui sont des petites pièces, des piécettes comme des pièces de 1 centime, qui ont été frappées par Ponce Pilate entre l'an 29 et l'an 31. Donc ça nous donne une date pour la salle. Il y a des inscriptions trouvées, notamment par le professeur Marion de l'Institut d'Optique d'Orsay, Innetche, qui est l'abréviation de Innetchem, des fantômes d'écriture, à la mort tu iras, donc qui est une des formules de condamnation, avec l'autre étant Il crucis ibis, tu iras, et l'autre, Nazarenos, le Nazarénien, et puis en dessous, même Ezou, des restes de peut-être Jésus le Nazarénien. Donc voilà, tout est signé, cette inscription a probablement été faite par le huissier romain qui a été chargé de vérifier la sépulture.
On l'aura compris, le Saint-Suaire de Thirin de Jean-Christian Petit-Fils, publié aux éditions Talendier, se lit comme une enquête passionnante, déroutante et sur la fin bouleversante. Quelques mots, Jean-François Rode.
Oui, justement, c'est vraiment une enquête extrêmement fouillée, il faut vraiment souligner ça, le enquête définitive, en sens que je crois vraiment vous avez regardé tous les éléments de la question. Alors je termine, on a peu de temps, mais je signale pour nos auditeurs que sur le même thème, il y a un livre qui s'appelle L'empreinte transfigurée de Brunor, sous-titré 20 énigmes du linceul de Turin, et je le conseille aussi beaucoup parce que c'est extrêmement pédagogique et ça rejoint tout à fait l'enquête que fait Jean-Christian Petit-Fils. Brunner est un dessinateur et il a une méthode qui est tout à fait intéressante. Il dit quand on demande une énigme, qu'est-ce qu'on fait ? Une enquête. Une enquête, c'est quoi ? Ben, c'est de trouver des indices. Alors il joue sur les mots en disant c'est les indices pensables. Donc il a fait ça pour l'existence de Dieu, l'évolution et le hasard, la création, etc. Et donc il a fait la même chose sur le sphère de Turin. À chaque fois, il ne veut pas asséner une conclusion, mais il dit quand même...
Il laisse la liberté au lecteur.
Là, c'est un véritable indice, et les indices convergent. Et c'est extrêmement fort comme méthode. C'est remarquable, et je peux le conseiller à beaucoup.
Parfait, le générique est envoyé. Vite un autre...
Alors, on en parlera une autre fois, mais Les grandes hérésies, l'Église dans la tourmente, je signale ce livre de Hilaire Belloc.
Qui est passé un peu inaperçu, et qui pour autant est passionnant.
Et surtout, pour le qualifier d'un mot, c'est un grand ami de Chesterton. Et
donc,
pour ceux qui connaissent Chesterton, je leur conseille vraiment beaucoup de lire cette vision de l'histoire, Hilaire Belloc.
Merci Jean-François Raraud. Il me reste à remercier Jean-Paul Dérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, et puis Jean-Christian Petit-Fils, le Saint-Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus-Christ, c'est chez Talendier. Et ben, vous n'avez pas besoin de prendre tous les autres ouvrages. Si, celui-là, il est remarquable, mais on n'a pas besoin de prendre tous les autres ouvrages. Votre conclusion est définitive, et c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui nous se révèle sur ce linge. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour le théâtre.